Bonjour David Chou. Alors tout d'abord un grand merci de nous accorder quelques minutes au Festival de Cannes. Donc tu es le réalisateur du Sommeil d'Or, un sublime oui. documentaire que nos lecteurs connaissent très bien et qui est sorti l'année dernière. Et tu viens donc à la quinzaine des réalisateurs pour présenter Cambodia 2099, ton dernier court-métrage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce petit film d'une vingtaine de minutes?
Alors c'est un film, c'est vrai qu'il y a une genèse assez particulière. L'histoire c'est que je me suis retrouvé l'été dernier au Cambodge. Ça faisait un an et demi que j'avais pas mis les pieds là-bas. Je bossais sur le Festival Memory International Film Festival, j'avais aidé à monter. Et j'avais un objectif très précis qui était de finir l'écriture de mon long métrage, de mon premier long métrage de fiction, que j'avais déjà commencé un an auparavant. Et voilà, j'avais prévu de rester 2-3 mois au Cambodge, quoi. Et au bout de 5 jours de travail, j'ai décidé de tout reprendre à zéro et de te rebâtir complètement le scénario sur un autre lieu et sur une histoire sensiblement différente. Ce qui était un déchirement et en même temps bon, c'était aussi positif parce que je savais ce que je voulais faire après. Mais j'avais une espèce de souci corollaire qui était que mon chef opérateur Thomas Favel, qui était le chef opérateur du Sommeil d'Or mais qui préparait avec moi le long métrage, avait pris de son propre chef un billet d'avion pour venir au Cambodge. Parce que lui avait un mariage à Bangkok et il a dit je paye mon billet et puis on prend une semaine et on fait des repérages pour le long. Et qui est un geste quand même amical assez fort. Et là je me retrouvais sans lieu à repérer avec lui qui a déjà payé son billet. Je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire? Et je pense que je lui écrivais, je ne sais pas me l'avouer, mais au fond je lui dis il faut que je fasse un film. Mais il n'y avait encore évidemment aucun scénario et rien. Mais par contre, j'avais déjà décidé que le long métrage, enfin la restructuration du scénario, se ferait notamment en termes géographiques et j'avais choisi de placer l'histoire de ce long métrage dans un lieu qui s'appelle Diamond Island, qui est une île dans la capitale du Cambodge, Phnom Penh, île complètement moderne, créée nouvellement, qui est un des plus grands projets immobiliers du pays et qui est une espèce de vitrine du Cambodge de demain. Et un lieu en plus qui me fascine parce qu'extrêmement populaire, puisque c'est une espèce de grand chantier ouvert le jour, et vers la fin de l'après-midi, des centaines de jeunes tous les jours arrivent, les jeunes de la capitale, arrivent en moto et déambulent dans l'île en regardant les yeux grands ouverts les constructions et les bâtiments qui s'érigent au fur et à mesure. Donc c'est un lieu que je trouve d'une force poétique, mais aussi symbolique, très très forte. Et donc je savais que c'était là que je voulais faire le long métrage, et donc petit à petit je me suis dit il faut que je tourne des images avant de partir. Ça faisait 3 ans, le Sommeil d'Or, le tournage était quand même mi-2010, donc ça faisait 3 ans que j'avais rien tourné. Et je dois avouer aussi que je pense qu'il y avait une prise de conscience ou une espèce de frustration trop grande où j'avais l'impression que je me disais le métier de réalisateur, est-ce que c'est vraiment de passer des années à écrire des scénarios et à attendre des commissions? Et de fait, c'est vrai que c'est ça en fait le quotidien des réalisateurs, mais je me dis est-ce que c'est censé être ça ou pas? Et j'ai envie de renverser le truc et tout en disant pour une fois, n'attendons pas l'argent et faisons et puis voyons si on fait un cours, quelques images, dans un lieu qui déjà appelle un désir, est-ce que ça se trouve, ça va me donner des idées, de l'inspiration, ça va déclencher des trucs pour ensuite le long métrage. Donc voilà, ça c'est vraiment la genèse. Et donc j'ai annoncé, donc j'ai skypé avec mes deux associés de Wikifilm, Jackie Goldberg et Sylvain de Couvlar, et je leur ai dit, je pense que si vous débloquez une somme dérisoire sur notre société, moi je pense que je peux faire un cours, je vais me débrouiller et tout, je vais remuer ciel et terre pour trouver l'équipement, des acteurs, etc. Et je peux faire un truc. Et ils ont dit banco, et donc c'est comme ça que le film est né. Donc j'ai écrit assez rapidement une histoire en 5 jours, et on a tourné vraiment très rapidement, en 3 jours et demi, avec une équipe donc locale plus le chef opérateur, avec une caméra qu'un ami m'a prêté et tout ça. Mais pour moi c'était, je pense dans l'écriture, se libérer aussi, pareil, de la frustration de ces 2 ans, de ces 3 ans de non-tournage, et de juste laisser libre cours au désir, mais pas un grand, des petits désirs, c'est-à-dire aussi des désirs de plan, des désirs de séquence, des choses qui avaient pu me travailler depuis un moment, ou alors nouvellement, et tout ça. Et aussi, utiliser l'observation que j'ai pu faire là, au Cambodge, les 2 mois qui ont précédé le tournage du film. C'était une période très particulière aussi, parce que c'était la période des élections législatives nationales, et il y avait un climat particulier, une humeur qui, moi, m'intéressait. Et je pense que l'un des objectifs du film, c'était d'essayer de capter l'esprit ou l'humeur de ce moment-là. En tout cas, moi, c'est le sentiment que je pouvais ressentir et d'essayer de le traduire en film.
Donc ça vient de l'observation du lieu, de l'époque et de cette envie de tourner.
Oui.
tu nous avais dit aussi que ton prochain film tourne autour de la jeunesse cambodgienne. Est-ce que justement, enfin, il y a eu un travail de préparation de l'écriture du scénario avec cette jeunesse d'aujourd'hui?
De toute façon, moi, je suis pas ethnologue, donc c'est vrai que c'est plutôt les relations que je peux avoir naturellement quand je suis là-bas, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amis qui sont jeunes entre guillemets, donc c'est des jeunes entre 18 et 25 ans quoi, et c'est de toute façon assez naturel ce que je peux observer, les rapports entre eux, les choses qui peuvent m'interpeller ou me fasciner, puisque j'ai toujours un point de vue, je pense quand même assez extérieur justement aux choses, mais c'est en ayant un point de vue extérieur parfois qu'on peut, je sais pas, voir les choses un peu différemment, et oui, c'était évident qu'au départ je voulais pareil dans la préparation du long et tout, essayer de... L'histoire est très différente sur le long, mais ici de mettre en scène trois jeunes gens et de me nourrir à l'écriture de choses que j'ai pu observer et même de choses que eux peuvent avoir et tout, donc s'inspirer aussi des acteurs, puisque c'est deux des trois acteurs, les deux garçons sont deux des meilleurs amis au Cambodge, donc je les connais par cœur, et donc j'ai aussi écrit le script pour eux, mettre parfois des dialogues dans leur bouche que j'ai pu entendre de leur part, donc il y avait tout ce travail là mais je dirais de façon un peu inconsciente ou en tout cas très spontanée de mixer un peu tout ce que j'avais pu voir, vivre, observer les deux mois précédant le tournage.
La structure du scénario tourne autour du récit de deux rêves.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de filmer ces rêves?
Je me rappelle plus du tout. Je sais plus du tout. Non mais c'est vrai, le processus était tellement rapide. J'ai pensé à dernièrement, peut-être que c'est un truc qui me titillait depuis un moment, et puis j'aime bien. En fait, je pense que le cinéma c'est aussi une machine à rêve, etc. Donc il y a un lien évident. Et non, en fait, c'est pas ça. C'est que effectivement, j'ai beaucoup repéré sur Diamond Island. J'ai marché seul longtemps, observé un peu les comportements, regardé des choses. Et je pense qu'il y a eu une scène qui a été en fait l'image qui a donné naissance après à la conception du film. C'était deux garçons sur une rive et qui regardaient donc comme les deux garçons dans mon film. Ça veut dire un peu rien en fait. Il y a un fleuve et puis il y a un bout de terre et ils regardaient ça, ils discutaient ensemble. J'étais trop loin pour entendre vraiment ce qu'ils disaient, mais ils discutaient comme ça pendant une heure sans s'arrêter. Et je me disais juste, et j'avais le plan, enfin voilà, j'étais derrière, de quoi ils parlent, c'est quoi leur histoire. Donc je pense que le film aussi c'était ça, une tentative d'essayer de trouver, d'imaginer de quoi pouvaient bien parler ces deux garçons. Et c'était ça le point de départ. Et donc après je sais pas comment s'est greffé l'histoire du récit des rêves, mais c'est aussi parce que je pense que c'est sûr que l'une des thématiques importantes dans le film, c'est celle du rêve. Donc c'était aussi, je pense, une manière de faire un petit film qui essaie d'explorer un peu la matière des rêves, comme je disais, des jeunes qui viennent sur cette île et qui regardent les choses les yeux grands ouverts. Pour moi, c'est comme s'ils rêvent de quelque chose, une espèce de projection, peut-être le Cambodge du futur, peut-être leurs aspirations personnelles. Et donc voilà, le film essaie d'explorer ça par plein de biais divers. Hein. Après, l'autre truc pour moi qui était important, c'est la légèreté aussi. Donc ça veut dire aussi le côté un peu fantaisiste du film, qui ne se prend pas tellement au sérieux, et la façon de marcher de façon impressionniste de scène à scène, sur des blocs, je pense, esthétiques assez différents les uns des autres, et en espérant qu'il y ait un lien cohérent qui se tisse au-dessus ou par en dessous des scènes.
À propos de fantaisie, justement, le film se termine par un petit twist assez amusant, enfin l'avant-dernier plan,
ouais.
La chorégraphie. On a rêvé, t'as emprunté la chorégraphie de fusion de Dragon Ball Z.
Ah, dommage, c'est presque ça. Justement, évidemment, je le dirai jamais avant, mais là maintenant c'est trop tard, si on le dit là, c'est la première interview, c'est dommage. Ouais, j'ai complètement emprunté la chorégraphie à Dragon Ball Z, qui était encore une fois une volonté de mixer un peu différents genres et aussi de s'amuser. Et je ne sais plus comment j'ai eu l'idée, mais non, c'est pas la chorégraphie de fusion. Vous voyez pas laquelle, hein.
C'est The Great Saiyaman de Sangohan.
Bien sûr, c'est le guerrier intergalactique, c'est Sangohan qui en temps de paix se met son truc et d'où le casque et tout ça, quoi. Ouais, carrément. Et c'est plan pour plan, c'est exactement la danse, quoi. Ouais, bien vu. C'est génial. Hein. Je pense que c'est ce geste-là, je pense.
Oui, c'est ce geste-là.
Ouais, ce geste-là qu'on se rappelle.
Il y a aussi dans Dragon Ball Z, dans le segment Freezer, il y a aussi une chorégraphie particulière qui ressemble.
Ouais, les cinq gars de l'espace. Ouais. Ouais, carrément.
Bon, dommage, bien vu. Pas la vidéo pour le coup. Donc tu as refait un peu.
Ouais, mais vous pouvez la trouver. Hein, j'ai trouvé sur YouTube pour la montrer à mon acteur. Hein. Ah zut.
Et par rapport au futur, pourquoi 2099 comme choix de date particulière?
Ça vous savez ou pas?
Si, pour le comics,
non.
Ah, ouais, c'est ça, c'est le comics.
C'est Marvel 2099.
Ouais, ouais. Ouais, c'est Marvel 2099. Là, je cherchais une année, en fait, et... enfin, il y a d'autres raisons et tout, mais la principale raison, c'était aussi, encore une fois, ça. C'est mixage de pop culture, sans doute des choses très personnelles, parce que, bon, comme plein de gens de ma génération, moi, j'ai tout regardé, enfin, j'ai regardé tout Dragon Ball Z, et c'était un truc très important pour moi. Et j'étais aussi un fan assez hardcore de comic book, hein, notamment de la série X-Men, avant que ça devienne des films un peu décevants. Mais 2099, ouais, alors pour le coup, c'est une série assez peu connue. Pas non plus géniale, je trouve, mais voilà. C'était pour moi un clin d'œil amusant, mais je sais pas combien de personnes...
Il y a quand même le Spider-Man 2099 par Peter David, qui était excellent.
Qui est vachement bien.
Dans la petite série de 2099.
D'accord.
Ouais. Mais
non, parce que moi, ouais, il y a des choses. Je pense que le côté comics, c'est qu'en fait, les comics j'ai beaucoup aimé, mais il y a un truc dans le comic que je trouvais absolument génial et qui m'a souvent stimulé et attiré l'esprit, c'est les. Comment on appelle ça? C'est genre comme l'ère d'Apocalypse, mais il y a un nom pour ça, les.
Les uchronies,
ouais,
ou
c'est ça.
Parallèles.
Les uchronies et le fait qu'après ça se. Enfin, ils font des multiverses, je sais pas quoi, là, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, bon, je sais pas exactement comment expliquer ça, mais ça, je trouve ça absolument génial et extrêmement stimulant. Et comme le film parlait du futur et des choses comme ça et tout, c'était une manière aussi pour moi de raccrocher, de rendre hommage à ce qui a pu me nourrir sans doute aussi mon propre imaginaire.
Alors, pour revenir au film et au cinéma cambodgien, parce qu'on s'en est un peu écarté, donc comment en parler juste avant, tu travailles donc avec Kavish Neang sur ce film qui est ton acteur.
Ouais.
Est-ce que. On peut parler d'une un peu avec toi, lui et peut-être d'autres, d'un renouveau du cinéma cambodgien en devenir, donc avec des jeunes réalisateurs qui émergent actuellement.
Je pourrais pas dire ça comme ça. Et en plus, je me considère pas comme un cinéaste cambodgien. Kavich, pour le coup, c'est un vrai cinéaste cambodgien, né au Cambodge et dont j'espère vraiment, oui, qu'il représente la relève, même si je veux pas mettre la pression non plus trop à des jeunes cinéastes qui commencent. Et puis moi, c'est forcément un profil très différent parce que je suis français d'origine cambodgienne, que j'ai découvert le pays très tard à 25 ans et que c'est vrai que là, du coup, c'est mes deux derniers films se passaient au Cambodge. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que de l'observation que je peux faire depuis le moment où la première fois que j'ai vécu au Cambodge, c'était en 2009, et si je compare avec là, 2014, puisque je reviens de 4 mois au Cambodge, la situation en tout cas des films et notamment des jeunes qui font des films est absolument incomparable. Et effectivement, d'un côté, je dirais, des jeunes cinéastes qui commencent à faire du documentaire et qui est reconnu et qui est montré à l'étranger dans des festivals internationaux, c'est Kavich Neang, c'est Lida Chan, c'est Guillaume Sion Petit, d'autres réalisateurs, souvent sous l'égide de Ritipan, qui fait qui les a pris sous son aile. Et en même temps, d'un autre côté, là, et c'est tout nouveau, des jeunes qui commencent à faire des courts-métrages et des courts-métrages aussi reconnus, notamment là, il y avait un festival qui s'appelle Tropfest, qui est un festival de court-métrage en Asie du Sud-Est, et les deux premiers prix étaient remis à des jeunes cinéastes de moins de 22 ans, je crois. Donc là, pour le coup, ça c'était inimaginable aussi il y a 5 ans, donc il y a indéniablement un truc qui se passe. Il y a aussi des gens plus âgés, Chai Bora et Kulikar Soto par exemple, ou Sok Vissal, donc c'est des générations de gens entre 40 et 50 ans, qui font leur premier long métrage, parce qu'avant il n'y avait pas la possibilité tout simplement de faire des films, donc il y a tout ce truc qui se passe. Donc c'est clair que quand on va au Cambodge et quand on regarde un peu et quand on s'intéresse à la question, il y a la conscience qui se passe un truc en ce moment, mais c'est le tout début de quelque chose. Donc,
il y a aussi un nouveau lieu de diffusion avec le cinéma qui a été construit. En
absolument,
fait,
ouais, pour moi.
Qui vous aide aussi un petit peu. Enfin, Kavich il a pu quand même montrer son film, ce qui était absolument impossible auparavant, ouais. Sauf dans les espaces culturels, le Meta House, etc.
Absolument. Il y a eu plein de facteurs, moi je pense, et c'est toujours difficile de savoir. Alors, j'ai l'impression que c'est juste une multitude de facteurs qui arrivent au bon moment. Après, il n'y a peut-être pas de hasard, quoi. Mais il y a effectivement la création de deux multiplexes en 2011, alors qu'il y avait en 2009 aucun cinéma, voire juste deux cinémas, mais qui montraient, enfin, en mauvaise condition, et qui montraient des films thaïlandais en DVD ou des choses comme ça, ou de super petits budgets. Et là, non. Là, c'est les licences américaines, donc on manque des blockbusters avec la licence dans des salles 3D qui n'ont rien à envier à nos salles françaises. Et ça, c'est, pour moi, c'est incroyable, parce que ça redonne l'habitude aux jeunes d'aller voir des films, ou ça leur apprend à aller voir des films dans des salles, ce qui pour eux en fait n'est pas donné, puisque d'habitude ils regardent les films, ils les regardent en DVD piratés, et donc pour moi c'est un grand pas en avant. Et effectivement, ces salles, comme d'autres, ont une volonté d'aider un peu la remise sur pied de l'industrie cinématographique, et invitent les jeunes cinéastes à montrer leurs œuvres là-bas, ce qui, moi, je trouve, est vachement bien. Donc il y a ça. Il y a aussi les organisations culturelles et cinématographiques qui font un travail à long terme de développement, notamment la Meta House, tu l'as mentionné, mais aussi, je pense que c'est très important, c'est la Cambodia Film Commission, qui a été créée en 2009 et qui fait de la formation, qui attire des tournages étrangers à venir tourner au Cambodge et qui, du coup, favorise la formation des techniciens. Et récemment, il y a eu, par exemple, le long métrage de Régis Varnier, Le Portail, qui a été tourné au Cambodge, et également un téléfilm d'Éric Zonka. Donc il se passe des trucs comme ça et tout, donc il y a plein d'énergie et plein de... Et il y a aussi le collectif Konkomai Konkomai, qui avait été créé suite à l'atelier que j'avais fait en 2009. Et ça, pour moi, c'est un truc assez dont je suis hyper fier et que je trouve super. C'est pour le coup que des jeunes Cambodgiens qui s'autogèrent dans leur collectif et qui font des projets, souvent des manifestations culturelles autour du ciné, de leur propre chef. Et donc récemment, là, c'était là en 2014, il y a quelques mois, ils organisaient le FilmCam, qui est une journée entière autour du cinéma, de sensibilisation pour que des jeunes d'université ou du lycée qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le film, le cinéma, ou alors même aucune idée qui pourrait se mettre à faire des films, viennent rencontrer des professionnels et tout ça. Ce qui vraiment au Cambodge, ça paraît rien pour nous, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, je trouve, en tout cas, voilà, quelque chose qui n'existait pas. Et un autre truc qui était tout simplement un festival de courts-métrages, créé aussi par Konkomai Konkomai, qui s'appelle le Chateau Mouk Short Film Contest. Et là-bas, j'étais dans le jury cette année, et j'ai vu une vingtaine de courts-métrages, de qualité parfois discutable, parfois intéressante. Mais le fait est qu'en 2009, je me rappelle d'une anecdote pour moi vraiment marquante, il y avait une femme de la Teach New York Film School qui était venue présenter des courts-métrages au Centre Bopana, et à la fin de la projection, un jeune que je connaissais en plus lui demande « Donc on a vu une scène d'un long film, c'est ça, et vous nous avez pas montré le film en entier. » Il avait juste aucune conscience que c'était qu'un court-métrage, parce que personne ne faisait des courts-métrages à l'époque. Et là, de voir 20 jeunes qui faisaient leurs courts-métrages, bon, avec tout le monde, ça, c'était vraiment pour moi génial, et je pense que c'est aussi motivé par la création d'un festival, donc évidemment un espace de diffusion qui les pousse à faire des trucs. Et évidemment, on ne peut pas nier, et ça, je pense que c'est une cause globale, mondiale, l'accès aux technologies, évidemment, maintenant, de pouvoir faire un film rapidement, facilement avec un appareil photo. Voilà.
À propos de festival, vu qu'on est à Cannes, parlons un peu de Cannes, c'est la première fois que tu viens à Cannes ou...
Non, je suis venu, je crois, à 4 reprises en tant que pur cinéphile, et j'ai vécu pour moi des moments, enfin pour moi, ouais, comme tout cinéphile, aller à Cannes, c'est la messe, c'est la grande messe du cinéma, quoi. Donc c'était en 2006, 2007, 2008, et j'avais lu un truc, je me compare pas, mais j'avais lu un truc de Martin Scorsese qui disait que son meilleur souvenir cannois, c'était sa première année quand il présentait aucun film et qu'il allait juste voir des films. Et moi, je me rappelle très bien de cette année-là, 2006, où on était là avec un groupe en plus de cinéphiles du site Média Critique à l'époque, dont Jackie Goldberg, Sylvain de Couvlar, mes associés et producteurs, faisaient partie. Et on battait 4 à 5 films par jour sans savoir ce que c'était que les soirées, les cartons et tout ça. On voulait juste venir et voir des films. Et pour moi, c'était le meilleur souvenir. Et forcément, à l'époque, je faisais des courts-métrages, donc tu te projettes toujours un jour, mais bon, tu t'imagines pas que ça va vraiment arriver, donc là non, c'était une grosse surprise. La sélection était une grosse surprise, d'autant plus connaissant le processus de production tel que je vous l'ai expliqué. Oui, évidemment, quand on filmait, on s'est jamais dit qu'on allait retrouver dans quelques mois à le présenter, enfin dans un an à le présenter à Cannes, donc la surprise a été très très grande. Je l'ai appris par mail tout simplement quand j'étais au Cambodge, et donc j'ai précipité mon retour là un mois avant ce qui était prévu pour pouvoir le présenter ici.
Super. T'as pu voir des films depuis que t'es arrivé ou...
Pas beaucoup, parce que justement, plus on vieillit, moins on peut voir de films à Cannes. Mais là, dans la séance que je viens de voir des courts-métrages de ma session, j'ai été honnêtement très impressionné par le film brésilien, le dernier film. Je le trouve extrêmement beau, avec des idées de plans à chaque scène et tout, et un truc très émouvant qui m'en a vraiment mis... par terre. Et j'ai beaucoup apprécié le film de Nadav Lapid, le nouveau film de Nadav Lapid, L'institutrice, voilà, après Le policier. Et c'est un film aussi très impressionnant, notamment formellement, et un truc très fort.
Est-ce que tu pourrais toucher un petit mot par rapport au film thaïlandais que vous avez coproduit?
Bien sûr, ouais. Donc ça, c'était Boundary,
oui,
de mon ami Nontawat Numben Chapol. On s'est rencontré avec Nontawat quand je présentais Le Sommeil d'or à Busan fin 2011. Lui, il avait eu une aide à la post-prod de Busan, justement sur ce film. Et il m'avait contacté parce qu'il faisait un documentaire qui se passait entre la Thaïlande et le Cambodge sur les problèmes politiques internes à la Thaïlande, plus des problèmes frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande, notamment autour du temple de Plavihir. Et il y avait des affrontements comme ça entre les populations des frontières, notamment les deux armées. Et donc on a beaucoup sympathisé. Nontawat a fait de nombreux films, mais il faisait aussi partie de l'équipe d'Uncle Boonmi, donc qui est très proche d'Happy Chat Pong. Et on a beaucoup sympathisé, il est venu et j'ai eu envie de l'aider. Donc j'ai pas eu vraiment une vraie casquette de producteur à vrai dire, mais c'était plutôt au Cambodge, de l'amener dans les endroits, de le présenter à des gens et de connecter des. Ouais, de faire un lien, puisqu'il avait jamais mis les pieds au Cambodge à l'époque. Donc le film a été sélectionné au Forum de Berlin en 2013, qui était vraiment aussi un truc super. Et Nontawat a continué après, puisqu'il a fait un très beau documentaire qui s'appelle By the River, et qui a gagné une mention spéciale à Locarno l'année dernière.
Est-ce que tu sais quand tu vas tourner ton long? Tu as déjà des dates? Comment ça avance en fait?
Là, je suis en train de finir l'écriture de ce film-là, qui se passe donc sur l'île de Diamond Island. C'est un film, je pense, assez différent du cours. C'est le même lieu, mais c'est moins une rêverie et plus un récit, je dirais. Quelque chose de plus romanesque. J'espère pouvoir le tourner d'ici la fin de l'année. Voilà, j'ai trouvé une productrice en la personne de Charlotte Vincent et sa société Aurora Film. On coproduit avec ma société Vicky Film. Et c'est toujours maintenant les processus de trouver de l'argent, mais j'espère qu'on va pouvoir tourner d'ici la fin de l'année.
L'équipe que tu vas mettre en place, ça va être encore mélangé? Tu vas amener des Français et puis essayer de travailler avec les gens sur
place? Ouais, on ne change pas une équipe qui marche, donc non, mais ça va être évidemment, non. J'ai envie de dire que depuis, même avant le Sommet d'Or, c'est des relations à long terme qu'on construit, j'ai encore pas beaucoup d'expérience, donc on grandit ensemble, on fait nos films ensemble, on fait aussi nos erreurs ensemble. Et moi, ça me semble hyper important, donc oui, dans ma tête, ouais, c'est la même équipe. Puisque là, le court-métrage était exactement la même que le Sommet d'Or, notamment en post-prod, puisque sur le tournage, c'était quelques techniciens Khmer avec qui j'avais travaillé, plus le chef-op. Hein. Mais oui, pour moi, on continue l'aventure ensemble.
Toute dernière question. Le Sommet d'Or, est-ce qu'il y a des suites depuis,
Des suites au Sommet d'Or, le Sommet d'Or 2.
C'est ça.
Tu veux dire,
bon, surtout par rapport à la carrière internationale que ça a pu... qu'elle a pu faire? Est-ce que tu as des retours des gens sur place, des gens que tu as interviewés et suivis? Est-ce que ça te drainait quelque chose?
Ah bah c'est sûr, le Sommet d'Or ça a été un gros truc pour moi, puisque j'ai suivi le film pendant presque plus d'un an à l'étranger. Donc 2012 pour moi c'était une vie nouvelle, mais juste une parenthèse ouverte fermée de voyage tous les mois dans des pays où j'avais toujours rêvé d'aller sans penser que je mettrais les pieds, ou en tout cas pas aussitôt. Donc ça a été énormément de rencontres, de discussions avec les gens. La prise de conscience que finalement, sur un sujet qu'on pouvait penser un sujet presque de niche, quoi, le cinéma cambodgien, c'est super évocateur pour plein de gens, et en réalité, il me semble qu'il y a eu un retour assez universel sur le film, parce qu'on est dans des festivals, donc on s'adresse à des gens qui, a priori, aiment le cinéma, et que fondamentalement, c'était ça, c'était un film sur la passion du spectateur, l'amour du cinéma, voilà, pour parler un peu... basiquement, quoi, et ça m'a beaucoup nourri, et ça a été récompensé à la fin par la sortie en salle française, qui était un peu, ouais, pour nous le Graal, enfin le rêve, et ça s'est passé avec un bel accueil critique, donc non, j'étais absolument comblé. C'était plutôt, j'aurais tendance à dire même que c'était plutôt, que c'était dur de trouver le temps pour vraiment se concentrer sur le prochain projet, quand tu voyages beaucoup avec le film. On fantasme pour réussir en deux semaines entre deux voyages, mais en réalité non, il faut une implication, un engagement un peu plus fort que ça, donc j'étais content aussi que ça s'arrête à un moment.
Et si on partait également par rapport à la perception cambodgienne, en fait, de tous ces intervenants, est-ce que vous étiez fiers, est-ce que ça...
Ah, pour moi, il y a eu un souvenir incroyable qui a été, il y en a eu deux, c'était la présentation du film au Cambodge, donc c'était fin 2011, juste après Busan, où là, bon, c'était une salle comble dans justement un de ces nouveaux multiplex à Phnom Penh. Ils étaient tous là, ils ont reçu une standing ovation très très longue à la fin, et sur leur visage, il y avait vraiment une très très grande fierté, vraiment très émouvant. Mais l'autre moment inoubliable, c'était Berlin en fait, parce que le film ensuite a été sélectionné au Forum de Berlin, à la Berlinale en 2012, février, et ils ont fait les choses en grand parce qu'ils ont invité trois d'entre eux, Yvon M, qui est décédé depuis, mais à l'époque il était déjà un peu souffrant, donc c'était impossible pour lui, mais il y avait Lee Boon Yim, Lee Eun Sring, et l'actrice Dissavette, On montrait en plus 3 films cambodgiens, 2 films de Thi Dinh Khun et un film de Lee Bunim dans des superbes conditions. Pour moi, c'était incroyable et complètement surréaliste en vérité. Après, j'ai vu le film de Martin Scorsese, Hugo. Et je ne spoil pas, mais à la fin d'Hugo, voilà, y a une présentation d'un vieux cinéaste face à un public, mais genre 40 ans ou 50 ans après. Berlin, c'était exactement ça, quoi. Lee Bunim et Thi Dinh Khun, dans une superbe salle, qui présentent un public leur film 40 ans après. Il y a un truc absolument magnifique, quoi. Donc pour eux, je pense que c'était, ouais, c'était chouette. Hein.
Bah, merci beaucoup.
Ouais, de rien, c'est toujours un plaisir.
À très bientôt pour le long métrage.